Bien le bonjour, vous êtes sur Fréquencier sur le 97.9. C'est l'heure du rendez-vous hebdomadaire avec les lycéens. C'est l'hebdo des lycéens, cette émission qui vous permet de vous transmettre un regard ou des regards qu'ils peuvent avoir sur l'actualité de cette semaine et pas forcément sur les sujets qui ont fait la une de tous nos journaux, aussi bien en papier qu'en radio ou en télévision. Nous avons aujourd'hui autour de cette table en studio Antoine, Laurine, Pierre, Audrey, Justine, Stéphanie et Lise qui ont choisi donc un certain nombre de sujets d'actualité. Je vous propose qu'on démarre avec une actualité à caractère à la fois sportif et local. Eh ben, c'est pas du tout ce que vous attendez. Ils se sont dit, ouais, ils vont nous parler de sablé. Eh bien, non. Antoine.
Alors, aucune Peugeot sera sur la grille de départ des 24 heures du Mans les 16 et 17 juin prochains. En effet, l'écurie se retire des compétitions sportives dans un souci économique au vu d'une année particulièrement riche en nouveaux modèles. Donc Peugeot privilégie cette année sa performance commerciale. Les 200 salariés de Peugeot Sport vont toutefois garder leur poste. Ils vont organiser plus de courses sur des circuits. Et on espère qu'ils vont revenir le plus vite possible en compétition.
C'est quelque chose qui risque de nuire à l'intérêt de cette course, Antoine, à ton avis ?
Bah, je pense aussi parce que on sait déjà les gagnants de la prochaine édition, donc
en gros,
ça joue. Audi, je pense.
Le débat était plutôt effectivement depuis quelques années entre Audi et Peugeot. Peugeot, il s'est classé comment les années précédentes ?
Je crois que l'année dernière, ils étaient derrière Audi à juste quelques minutes, donc la compétition était vraiment serrée. Et sinon, ils avaient gagné en 2009 les 24 heures du Mans.
Alors, est-ce que tu penses que c'est un choix purement à caractère sportif, un choix économique, et est-ce que c'est une erreur ou un bon choix, à ton avis, fait en termes de stratégie par Peugeot ?
C'est surtout un choix économique pour permettre au nouveau modèle d'avoir une meilleure commercialisation.
Est-ce que tu penses que c'est porteur, cette image des 24 heures, pour développer les ventes de voitures d'une certaine marque ?
Comme c'est une compétition internationale, c'est plutôt porteur pour la marque, mais ils ont décidé cette année d'annuler, donc c'est leur choix.
Tu vas régulièrement aux 24 heures du Mans ?
Régulièrement, oui.
Oui, qu'est-ce qui te plaît dans cette manifestation ?
Déjà, je suis un passionné d'automobile et... Comme les 24 heures du Mans, ça nous concerne, c'est proche de chez nous. Donc
tu fais partie des centaines de milliers de personnes venues du local, oui, ou de loin, international, qui se déplacent sur cette manifestation. Donc tu iras quand même cette année, malgré l'absence de Peugeot ?
Oui, j'irai quand même.
Qu'est-ce qui t'intéresse ? C'est plutôt l'ambiance, les performances des véhicules ?
Tout, c'est une compétition mythique. Je suis passionné.
C'est le côté mythique.
Oui.
Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que quand on va à l'étranger et qu'on nous demande d'où on vient.
Tout le monde le connaît.
Voilà. Quand on va en France, d'ailleurs, c'est très drôle, la phrase, elle est connue. Quand on va en France, bonjour, on vient de la Sarthe. Ah, la Sarthe, les rillettes. Et quand on va à l'étranger et qu'on dit on vient du Mans, enfin de la Sarthe, ah, les 24 heures. C'est quelque chose d'automatique. Donc, ça joue effectivement sur l'image de ce département. On reste dans le domaine sportif. Étonnant. Je sais pas si Laurine est d'habitude autant passionnée par le sport. Ça te passionne le sport, Laurine, non ?
Pas plus que ça.
Bon, alors tu nous parles de quoi, là ?
Du nouvel événement sportif au MMA Arena qui va avoir lieu.
Tout le monde va dire, tiens, elle va nous parler de sablé.
Non. Donc, en effet, après l'annonce d'une rencontre de l'équipe de France qui aura lieu le 5 juillet.
L'équipe de France de quoi ?
De foot.
Oui.
Il a récemment été annoncé le fait qu'il y aura un match du top 14 dans ce stade.
Ah, c'est bien, un match de rugby.
Donc cette rencontre, elle va se faire entre le Stade français et Agen, le samedi 24 mars dans l'après-midi, mais l'horaire, elle n'est pas encore fixée. Mais n'oublions pas que ce soir aura lieu le match de foot sablé PSG,
quand même,
où toutes les places ont été vendues en quelques heures.
En fait, on est pour qui là autour de la table ?
Pour personne.
Oh, ouais. Oh, comment on est quand même pour sabler. juste parce qu'on est surtout pas pour le PSG. Non, c'est sympa, le petit qui peut essayer de croquer le gros. C'est quand même, ce serait quand même pas mal. Vous savez que les places, ils ont été vendues en quelques minutes, hein, quelques heures. Il y a même eu un gros trafic au marché noir, des billets qui ont été vendus à plus de 100 euros par des gens qui avaient réussi à en récupérer d'une façon ou d'une autre. C'est pas une pratique évidemment à recommander. Bon, ce sera un grand moment de ferveur populaire. En parlant du match sablé PSG ce soir, est-ce que puisqu'on ne fera pas partie des 25 000 personnes qui à moins que, est-ce qu'il y en a parmi vous qui y seront ce soir? Non,
non,
personne. Moi, j'aurais bien aimé y aller, mais fallait se réveiller vraiment au bon moment, mais c'était impossible. Sur à la télé, est-ce qu'on pourra suivre le match apparemment? Est-ce que vous savez ça? Non. Hein, je crois que c'est Eurosport, hein, c'est ça.
Sur
ouais,
Eurosport.
Ouais. Eh ouais, mais pas sur les chaînes locales. Vous savez que les histoires de matchs, ça se paye, quoi. Donc bon, eh ben on pourra toujours suivre ça en radio et en tout cas, on espère que Sablé, que les petits Sablés vont pas se faire croquer, quoi. Voilà. On va aller du côté de Pierre maintenant. Pierre, ah oui, excusez-moi, par rapport au rugby, Laurine se dit « Ouais, ça y est, je suis tranquille jusqu'à la fin de l'émission. » Non, Laurine,
oui.
Tu nous rappelles les dates du match de rugby?
Le 24 mars dans l'après-midi, c'est un samedi.
Et les places sont en vente ou pas?
Bah, on est allé voir nous récemment et elles n'y étaient pas encore.
D'accord, est-ce que tu irais voir toi un match de rugby?
Oui, on compte y aller en famille.
Ah, et pourquoi du rugby et pas du football?
Parce que mes parents sont de grands fans de rugby. Dès qu'ils peuvent aller voir des matchs, ils y vont. Et vu que là, au lieu d'aller à Paris, bah, on ira au Mans.
D'accord. Et match de rugby, c'est toujours sympa.
Oui, ouais, l'ambiance.
Ouais. Il y a effectivement une ambiance sympa et bon enfant. On est très loin d'ambiance un peu agressive parfois du football. Et puis, allez, il y a moins de pognon quand même sur le rugby que sur le football. C'est le bon côté. N'empêche que, allez les petits sablés, quoi. Pierre, il y a des gens en grève. Il y a des services qui sont fermés.
Oui, oui, des sites internet. Oui.
Ah bah ouais, ouais, ouais. L'autre jour, on a parlé de Wikipédia, là. Et là, tu nous parles de quoi, Pierre?
Eh bien, c'est donc les deux sites Mega Upload.
Pierre est en train d'allumer tout doucement, oui. Allons-y doucement.
donc Mega Upload et Mega Vidéo qui permettaient, entre autres, de télécharger des films ou de les visionner en direct. Donc, ils ont été fermés hier par la justice américaine. Donc, les autorités américaines ont évalué à peu près à 500 millions de dollars, donc c'est-à-dire 386 millions d'euros, les préjudices financiers causés aux détenteurs des droits d'auteur donc des films. Le patron du site Mega Upload, Kim Schmitz, a été arrêté ainsi que deux autres personnes en Nouvelle-Zélande. Cependant, on peut se poser la question de la légitimité de l'intervention américaine, car Mega Upload était basé à Hong Kong, hors de la juridiction états-unienne.
Est-ce que toi, tu es utilisateur de ce type de site ou pas?
Bah, je pense que comme une grande partie des gens présents dans cette salle, oui, j'ai plusieurs fois utilisé ces sites.
Pour faire quoi, par exemple? Personne ne connaît ton nom, hein. Tu n'es pas présent dans le studio non plus.
Bah, au début...
Merci à cette voix de nous arriver du ciel. Donc,
Au début, c'était juste pour visionner les films en direct. Et puis après, c'est vrai que plus en plus, je me suis mis à les télécharger.
Ouais. Donc c'est pas légal, ça?
Ben non.
Enfin, tu l'as fait à l'époque où c'était pas encore condamné par la loi, bien sûr.
Oui, voilà.
Oui, c'était avant. Hein. Depuis, ouais, tu ne le fais surtout pas. Ça repose la question de la loi Hadopi aussi? Sur les droits de téléchargement?
Oui, bien sûr, ça repose toute la question des droits, parce que les auteurs, les réalisateurs des films, ne touchent rien de... Des téléchargements des films, car ils sont gratuits.
Mais ce site-là, c'est pas finalement un site qui a été conçu pour déposer des fichiers lourds et qui finalement a été petit à petit détourné de sa vocation, non?
Si, il me semble qu'à la base, c'était plus des documents, enfin je sais pas trop de quelle sorte, mais...
Des documents perso, quoi, des photos, des choses.
Voilà, ouais. des documents qui requièrent une certaine...
Bon,
capacité.
Ça veut dire quoi concrètement fermer un site? On a du mal à comprendre. Techniquement, ça veut dire qu'on y accède de nulle part dans le monde?
Que non, on peut plus y accéder. Enfin, je veux dire, on peut pas aller dessus.
Techniquement, c'est une opération compliquée, ça.
Je sais pas, mais enfin, ça doit requérir des capacités, enfin, en informatique. Et puis bon, je pense qu'aux États-Unis, ils ont pas mal de... enfin, d'ici incapables de faire ça.
Voilà, puis il y a pas mal de pays dans lesquels ils sont déjà bien au point pour essayer de bloquer l'accès à certains sites internet. On peut penser par exemple
à la Chine.
Comme la Chine. Ouais. Ok. Donc, est-ce que ça va rouvrir ou pas, ou c'est définitif?
Apparemment, c'est définitif, hein, mais je sais pas. Après,
c'est une information d'aujourd'hui, hein, donc
voilà. Enfin, l'information attends. N'est pas encore. Enfin, c'est le procès en cours n'est pas tout à fait fini, donc on peut pas savoir.
Bon, enfin, quelque chose qui repose la question de la défense des droits des créateurs, ouais. Hein, à travers le téléchargement gratuit et en l'occurrence pirate. Audrey, tu t'es intéressé à un certain nombre de chiffres locaux en matière de délinquance.
Alors oui, donc hier, le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres de la délinquance en France pour l'année 2011. Donc en Sarthe, on constate une augmentation des homicides, passant de 6 en 2010 à 9 en 2011. Aussi, les cambriolages sont en hausse, plus 7,3%, soit 1852 cambriolages contre 1726 en 2010. Les violences sexuelles ont augmenté de 10%, passant de 207 à 228. Les vols sans violence augmentent de 1,8%, ainsi que les vols avec violence, plus 21,8%. Donc l'atteinte aux biens et les destructions et dégradations sont les seuls actes de délinquance en baisse.
Lesquels sont en baisse, tu peux le répéter ?
L'atteinte aux biens et les destructions et dégradations.
D'accord. Donc moins de vandalisme, mais par contre atteinte aux personnes. Cambriolage, tout ça est plutôt en augmentation. Est-ce que ça te paraît logique dans le contexte actuel que ces chiffres-là augmentent ?
Pour les cambriolages, oui. Je comprends. Enfin, avec la crise et tout, oui, je comprends. Après, les actes sexuels, les violences. Les actes sexuels, non, je comprends pas. Les vols, si, je comprends parce que.
Tu penses que
la vie est chère, donc...
Voilà, tu penses que le contexte de crise...
Économique, oui. Enfin, ouais. Chose sur les vols et ouais. Les cambriolages, oui.
D'accord. Est-ce que tu connais des personnes qui ont déjà été victimes de... Soit de violence, soit de vol ou de cambriolage?
Oui, des amis, oui, je connais.
Victimes de quoi? De cambriolage.
De cambriolage.
Et alors, comment on réagit quand on est cambriolé? Parce qu'on parle toujours du point de vue de celui, enfin, on parle toujours de celui qui est volé, mais de celui qui vole, hein, bien sûr, mais rarement de ce qui se passe dans la tête des victimes.
Je pense qu'on se sent. On se sent seul, on se sent sans rien, sans plus. Enfin, complètement désemparé.
Et là, l'exemple que, dont tu nous parles, sans donner nom ni de commune, hein, ni rien du tout. Donc ça touchait quoi? Beaucoup de biens dans c'était dans la maison?
Dans la maison, oui. Donc, ils sont passés par la fenêtre et ils ont volé des ordinateurs et surtout les trucs technologiques en fait.
D'accord, des choses qui peuvent être vendues alors apparemment. Et les personnes qui avaient été touchées par ça, ils étaient plus embêtés par quoi? Par ce qu'il y avait dans les ordinateurs ou l'ordinateur eux-mêmes?
Plus par qui avait fait le vol en fait.
Ah d'accord.
C'était plus... la personne qui avait volé.
Et est-ce que la réaction... Est-ce qu'on a retrouvé finalement les voleurs ou pas?
Oui, parce qu'ils étaient au courant de qui avait volé, justement.
D'accord. Juste pour vous raconter une petite anecdote, si vous me permettez de rentrer. Il y a quelques années, c'est arrivé aussi à la radio d'être cambriolé. C'était en 1993, si je me rappelle bien. On était arrivé un jour, tout était vidé. Et puis finalement, un jour, le matériel a été retrouvé. Et c'était très très drôle parce que c'était des jeunes qui avaient volé ce matériel ici, puis d'autres matériels dans le lycée. Et comme il y avait une caméra dans le lot du matériel qu'ils avaient volé, ils s'étaient filmés avec le matériel, les postes de télé et tout ça. Alors évidemment, après, pour passer à la gendarmerie en disant « Non, 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 c'est pas nous !» et les gendarmes, ils avaient la cassette sous les yeux, « C'est pourtant bien vous qui vous êtes filmés !» Ah ben oui, mais bon voilà, c'était très très naïf comme vol. Et bon, on n'aime pas ça parce que ça désorganise. Et beaucoup de gens nous disent, parmi les gens qui ont été cambriolés, c'est l'impression d'être souillé en quelque sorte, que quelqu'un soit rentré et visité les armoires, tout ça qui choque. Bref, il y a une délinquance qui augmente, alors qu'au niveau ministériel national, on nous dit qu'elle recule.
Oui.
Voilà, donc essayez de trouver l'erreur. Justine,
oui.
Tu nous parles d'un drame. d'un drame qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui est effectivement énorme.
Oui, donc souvenez-vous, en 2005, dans le 13e arrondissement à Paris, un incendie survenu dans un immeuble habité faisait 17 morts, dont 14 enfants. D'après les experts, cet incendie était criminel, mais aussi renforcé par la vétusté des lieux. Ce jeudi, l'association qui gérait l'immeuble ainsi que l'entreprise qui avait fait des réparations ont chacune été condamnées à verser 30 000 euros d'amende en plus des dommages et intérêts. Le non-respect des normes de sécurité a en effet condamné les victimes. L'auteur est quant à lui toujours recherché par les autorités.
À ton avis, c'est quoi ce drame ?
Bah, c'est criminel, il y a quelqu'un qui est à l'origine de ça, mais je pense aussi que... D'ailleurs, l'amende qui a été donnée le prouve que ils auraient peut-être pu s'en sortir s'il y avait eu un meilleur état des lieux. Vraiment, j'ai lu les installations qui avaient été faites, c'était très inflammable, hautement inflammable ce qui avait été installé, et ça n'a fait qu'aggraver la situation en fait.
Donc il y aurait une double responsabilité.
Oui. Bon, on peut pas non plus jeter toute la responsabilité sur les entreprises qui ont fait des réparations dans l'immeuble, mais ils y sont pour quelque chose.
Oui, enfin, aller louer des logements donc insalubres et dangereux, on peut le dire, c'est quand même pourri comme méthode.
Oui.
Hein, c'est au moins aussi grave que de mettre le feu, et encore si le feu a été mis par un criminel. On a trouvé quelqu'un, non, un coupable ?
Non, il est toujours recherché.
Enfin, on le sait bien, de toute façon, il y a une espèce de logique où un certain nombre de gens profitent de la misère pour mettre les gens qui sont dans la misère dans des conditions qui sont pires en termes de sécurité, de salubrité, de non-prise en compte des questions de santé, etc. La misère, ça s'ajoute à la misère, finalement, et il y a des gens qui en profitent, et cela, faut pas les rater. On est bien d'accord là-dessus, au fait ?
Oui.
Alors, c'est Stéphanie maintenant, oui. Stéphanie, alors, tu vas nous parler de Portugal.
Si. Alors, mercredi, le gouvernement portugais a signé avec les partenaires sociaux un accord qui réforme le code du travail. En effet, donc dans le cadre des mesures d'austérité pour rétablir une situation financière du Portugal, cette réforme consiste à assouplir les horaires et à simplifier les licenciements. Donc le gouvernement a par contre renoncé au rajout d'une demi-heure de travail par jour. Selon le Premier ministre, cette signature va permettre au pays de se rapprocher de la résolution des défis sans précédent. Donc, il faut tout de même savoir que c'est le troisième pays de l'Union européenne qui a demandé une aide, puisque le Portugal a obtenu 78 milliards d'euros en échange d'un programme de réforme, en fait.
Bon, alors la question, c'est de savoir, face à des difficultés économiques, qui est-ce qui doit trinquer, quoi ? Qui est-ce qui doit faire les efforts ? Tu en penses quoi, toi ?
Ben, je sais pas si c'est vraiment la meilleure solution parce que, puisqu'en fait cet accord elle prévoit une diminution des indemnités de licenciement, une réduction du nombre de jours de vacances et la durée de versement des allocations chômage sera réduite. Donc en fait les conditions de travail seront beaucoup plus dures et je sais pas si c'est vraiment la meilleure solution parce que niveau économique c'est déjà pas ça, donc si au niveau travail c'est pas ça non plus.
La question qui est souvent posée, c'est de savoir si ce sont bien les gens qui sont responsables qui trinquent finalement après, quoi.
Oui.
Est-ce que les ouvriers, les employés sont responsables de la situation, de la crise économique, voilà, c'est ça.
Ben oui, c'est enfin, pas vraiment parce que bon, ils sont pas non, enfin comment dire, c'est plus au niveau politique. Enfin après, c'est un peu compliqué, quoi. Et...
ouais. Ce que tu veux dire, enfin ce que tu cherches à dire, c'est que c'est la notion peut-être pas uniquement politique, mais de décideur. Hein, il y a bien des décideurs politiques, il y a bien des décideurs économiques, et les ouvriers, par définition, ne sont pas les décideurs. Donc c'est vrai que si c'est eux qui trinquent, c'est pas forcément toujours logique. Est-ce que tu penses que la France va être amenée un jour ou l'autre à réfléchir à des mesures, pas forcément les mêmes, mais dans le même esprit ?
Sans doute. De toute façon, on ne sait pas, puisque la crise maintenant, elle est partout, donc... On verra bien dans quelques années.
Bon. Prochainement, peut-être.
Bah, après ces propos de grand optimisme, donc on va repartir avec Lise et on va avoir une illustration concrète justement de la crise.
Oui, donc je vais parler de la délocalisation de l'usine de lingerie Le Jaby. Les salariés de Le Jaby à Issingeaux en Haute-Loire sont en colère après la décision du tribunal de commerce de Lyon de fermer leur usine. C'est Alain Prost, ancien PDG d'une entreprise de lingerie, qui est le nouveau patron de Le Jaby. La décision date du mercredi 18 janvier. Elle a cette conséquence pour le siège de l'entreprise. Sur 450 salariés, seuls 195 sont conservés sur le site de Rieux-la-Pape, dans le Rhône. Les 255 autres, désignés selon des critères d'ordre âge, ancienneté, charge de famille, vont être licenciés. L'usine d'Issingeaux, où 93 salariés, dont 90 femmes, travaillaient, ferme ses portes et une partie de la production est délocalisée en Tunisie. Issingeaux était la dernière usine de la marque en France. Un coup de pied au cul après 32 ans, déclare une salariée. À l'époque où l'on prône le Made in France, délocaliser cette usine en Tunisie, ça fait tâche.
Bon, le cas Le Jaby est un cas très intéressant, et principalement sur l'implantation des usines en zone rurale. On va peut-être en discuter ensemble, mais Lise, d'abord, toi, pourquoi tu retiens ce sujet-là comme intéressant cette semaine d'actualité ?
Bah parce que j'ai vu des témoignages aux informations télévisées, et c'est surtout l'âge des femmes qui travaillent là-bas qui m'a choquée. Elles sont entre 40-50 ans dans ces âges-là, enfin, dans ce que j'ai vu.
Plus de 50 même pour certains,
parfois,
oui.
Et si j'ai bien compris, elles vont avoir une indemnité de 1 an de salaire seulement.
C'est cela, oui.
Je trouve ça ridicule, c'est tout petit, et à leur âge, ça va être quasiment impossible de retrouver du travail maintenant.
On parle aussi de leur permettre d'accéder à une formation.
Oui, peut-être, oui.
Est-ce que tu y crois, toi, que des personnes de cet âge-là vont pouvoir se reconvertir ?
Je pense pas. Puis, comme le disait une salariée, 32 ans de métier, je vais pas dire qu'elles savent faire que ça, mais c'est quand même toute leur vie qu'elles ont passé là-dedans. Alors, se reconvertir à cet âge-là, ça va pas être facile.
Tu trouves ça normal que les gens aient un lien affectif avec l'entreprise dans laquelle ils ont travaillé longtemps ?
Bah, après autant d'années, ça m'étonne pas, parce que elles se sentent à part entière, elles font vivre l'entreprise plus que d'autres qui arriveraient depuis quelques mois.
On a vu hier ce témoignage poignant d'une dame qui disait « J'ai mal dormi, j'ai pris des médicaments pour dormir, et puis je me suis réveillée ce matin, mais je suis venu ici, pointer, parce que je voulais venir dans l'entreprise. » Non, c'est sûr que ça doit être très très dur, en plus, entre ces femmes qui sont toutes solidaires. Est-ce que ça voulait dire pour autant que les produits, le Jaby, n'étaient pas des produits de qualité ?
Si, au contraire, ils avaient une très bonne réputation.
Oui, donc c'est pas un problème de qualité, effectivement, qui se pose. C'est un pur problème de délocalisation, Lise, c'est ça, non ?
Oui.
Si on parle un petit peu de la question, là, est-ce que Le Jaby fabrique des sous-vêtements, donc de la lingerie, donc de qualité ? Non, je vais pas vous demander si que vous achetez comme lingerie, rassurez-vous. Tu vois déjà des tensions. Non. Est-ce que quand vous achetez des vêtements, vous faites attention à l'origine des produits ? Est-ce que vous regardez d'où ça vient ? Est-ce que c'est comme fabrication ? Laurine, par exemple, semble avoir envie de répondre là-dessus, oui.
Moi, je fais pas du tout attention à tout ça, enfin, pour le moment, parce que j'achète ce qui me plaît. Et puis, d'où ça vient, non. Enfin, je pense pas. Je le regarde une fois les vêtements achetés.
Le fait de dire acheter plutôt français qu'autre chose, est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur vous ? Ou est-ce que, finalement ?
Par exemple, au niveau pas forcément des vêtements, mais tout ce qui est high-tech, des choses comme ça, je serais plus tentée de faire des efforts pour la bonne santé, entre guillemets, de l'économie française, si ça peut aider un peu, on sait jamais.
Bien sûr, oui. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que ce qui arrive ici à l'usine Le Jaby, et ce qui arrive surtout à Issingeaux, c'est pas un problème aussi particulier pour ce qui est des zones rurales? Est-ce que c'est pas plus sensible finalement à Issingeaux que si ça se passait en plein cœur de Clermont-Ferrand, par exemple, pour rester dans la même région? Justine, oui.
Bah, moi, ça m'évoque aussi à Ciel Guillaume. On a parlé un peu avant l'émission. Si l'usine Le Grand fermait, ce serait une catastrophe. Donc, dans les zones rurales, je pense qu'il y a vraiment sûrement l'entreprise qui fait tourner la plupart des actifs du coin. Donc, si ça disparaît, plein d'emplois disparaissent et il n'y a pas forcément de bons rattrapages après, de bonnes indemnités, de formation.
Ça nous rappelle un petit peu ce qui s'était passé à Fresnay avec la fermeture de Moulinex, où il y avait aussi des salariés qui avaient tous autour du même âge, hein, autour de la cinquantaine, avec la difficulté pour changer d'activité par la suite. Bon, c'est vrai, le site a été repris depuis, FH s'est installé, mais avec quand même moins d'emplois. C'est un traumatisme énorme pour une commune en zone rurale de perdre une activité industrielle. C'est le problème de la mono-industrie, hein, une seule activité. Ah, voilà. Et là, on trinque, quoi. Bon, ah ben, écoutez, on va peut-être en rester là pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avions avec nous Antoine, Laurine, Pierre, Audrey, Justine, Stéphanie, Lise, pour évoquer donc quelques points de l'actualité de cette semaine. On vous rappelle que on vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, pas la semaine prochaine. Ah oui, c'est pas à la semaine prochaine, on est à Fort-Massart. Mais oui, on sera tous à Fort-Massart pour couvrir justement cette manifestation et vous en faire part. Fréquency est en partenaire donc de cette manifestation. Et puis on va juste dire pour ce soir, allez sabler, hein. On espère qu'ils vont croquer que les petits vont croquer l'équipe du Qatar, ce serait quand même pas mal, quoi. Allez, on dit allez sabler, en tous ensemble. Allez, on y va.
Sablé.
Allez, sablé. Salut.
Au revoir.